Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, c'est l'émission 483. Et merci si vous êtes là depuis le début. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invitée, c'est l'actrice Bérénice Béjot, à parler du film L'Homme de la Cave. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant sa célébrité. Et puis Marc-Antoine Lebray, évidemment, pour clore l'émission. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Guillaume Benesch.
Bonjour Philippe.
Le retour et bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici les comportements médiatiques et hier matin, vous avez été très intéressé par la manière dont les journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, ont été questionnés par Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV.
Oui, captivante séquence, Philippe, qui en dit long, très long, sur la manière dont le travail d'enquête journalistique a désormais beaucoup de mal à être reconnu, y compris par les journalistes eux-mêmes. Alors je vous raconte, Gérard Davet et Fabrice Lhomme sont deux confrères qui pratiquent l'investigation depuis plus de 20 ans. Ils se sont fait une spécialité, publier un livre bilan à la fin du mandat de chaque président. Ils l'ont déjà fait deux fois et Jean-Jacques Bourdin le sait parfaitement bien.
Il y a 10 ans, vous publiez « Sarko m'a tué ». Il y a 5 ans, automne 2016, vous publiez « Un président ne devrait pas dire ça ».
Voilà, donc après s'être intéressé à un président de droite, puis à un président de gauche, Gérard Davet et Fabrice Lhomme sortent aujourd'hui un bouquin consacré à un président d'En Marche. On comprend donc assez bien que ce qui intéresse ces deux-là, lorsqu'ils tentent d'éclairer un bilan, ce n'est pas l'étiquette politique du président, mais bel et bien sa fonction, et Fabrice Lhomme n'a d'ailleurs pas manqué de le rappeler.
La vraie question, c'est est-ce que ce qui a été fait est critiquable ou pas ?
Pour autant, écoutez bien comment ces deux garçons ont été interrogés hier par Jean-Jacques Bourdin. Sa toute première question fut consacrée au titre très sartrien de leur livre « Le traître et le néant » et elle commença comme ça.
Alors j'ai une première question toute simple, n'est-ce pas péremptoire, réducteur et injuste ?
C'est-à-dire avec une apostrophe sur l'exactitude des conclusions de leur travail d'enquête qui, rappelons-le, a duré plusieurs mois et pour lequel ils ont interviewé pas moins de 110 personnes. Mais la deuxième question fut encore plus claire et interrogea carrément la position de ces journalistes.
Est-ce un livre militant ?
Soupçonnés de n'être non pas des professionnels de l'information, mais bien des militants, c'est-à-dire des gens qui poursuivraient une idéologie. Gérard Davet et Fabrice Lhomme ont donc été sommés de se justifier, d'expliquer la nature de leur travail, mais ils en ont bavé des ronds de chapeau parce que Bourdin n'était pas tout à fait convaincu.
Et c'est pas notre opinion à nous. On ne dit pas si Emmanuel Macron est un type formidable.
C'est quand même un livre à charge.
Non, ce n'est pas un livre à charge. C'est une enquête à charge.
À charge qu'il a dit deux fois de suite. Ensuite, se souvenant tout de même de leur qualité de journaliste, écoutez bien la troisième question qu'il leur a posée.
Vous êtes journaliste d'investigation, qu'avez-vous cherché ?
Il ne leur a pas demandé ce qu'ils avaient trouvé, mais bien ce qu'ils avaient cherché, comme si finalement leurs intentions étaient plus intéressantes que leurs conclusions. Il aura donc fallu attendre 15 minutes, 15 minutes et 30 secondes précisément, Philippe, pour que Davet et Lhomme puissent dire un mot des révélations que contient leur bouquin. Elles sont pourtant nombreuses et l'une d'entre elles est même d'une envergure politique colossale. On apprend en effet qu'Emmanuel Macron, qui avait promis 144 circonscriptions au MoDem de François Bayrou en échange de son renoncement à la présidentielle, est finalement revenu sur sa promesse et n'a laissé que 16 petites circonscriptions au parti centriste, wow. Mais que pour calmer la colère de Bayrou, La République En Marche a fait un chèque énorme à son parti.
4 millions d'euros, puisqu'un député rapporte à un parti 40 000 euros par an, et ils ont multiplié ça par 100, et donc on vous donne 4 millions d'euros.
Voilà, 15 minutes pour découvrir ça. Alors, qu'est-ce que nous dit précisément cette étrange interview ? Eh bien, elle signe, Philippe, qu'à force de confondre journaliste et éditorialiste, à constamment vouloir savoir d'où parlent ceux qu'ils invitent à grande longueur de plateau, nos camarades des chaînes info ont fini par oublier qu'il existait un genre journalistique majeur qui ne convoque pas l'opinion, mais simplement les faits, et qui porte un joli petit nom, l'information.
Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. Stéphanie Loire, vous avez des grands yeux, non plus on ne connaissait pas ce chiffre des 4 millions. Votre indispensable du jour, ça n'a aucun rapport.
Ça n'a aucun rapport, je vais vous parler de graffiti, mais de musique aussi au travers du graffiti et d'un livre qui s'appelle Sur nos murs.
Et le retour du jeune Guillaume Benesch, votre programme, de vos indispensables aujourd'hui.
Alors, je vais vous parler de deux romans jeunesse et vous allez voir, ils parlent d'ambition mais de façon très différente.
On a dans un instant Bérénice Béjot avec nous, la comédienne, pour parler du film L'Homme de la Cave qui sort aujourd'hui, mais d'abord musique. Clara Luciani et son tube disco tiré de son dernier album, Cœur. Le titre, c'est Respire encore.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.
Elle respire l'odeur des corps qui dansent autour d'elle dans l'obscurité.
Cette respiration, c'était Clara Luciani, Respire encore sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Bérénice Bejo.
Bonjour Philippe.
Vous êtes comédienne, vous avez découvert dans un film au titre prémonitoire, Meilleur espoir féminin, film de Junio. Vous avez eu des récompenses, prix d'interprétation à Cannes pour le film Le Passé de Faraday, César de la meilleure actrice pour The Artist, signé Michel Hazanavicius, avec qui vous avez également tourné OSS 117, puis Le Redoutable autour de Jean-Luc Godard, ou encore Le Prince oublié dans le genre comédie familiale fantastique avec Omar Sy. Votre actualité, c'est L'Homme de la Cave, film de Philippe Leguet avec François Cluzet et Jérémy Régnier. Le film sort aujourd'hui. L'Homme de la Cave, c'est pas vous, évidemment, par définition. Qui est Hélène Sandberg, votre personnage?
Hélène est mariée avec un homme qui est d'origine juive et qui ils forment une famille avec leur fille de 16 ans, un couple qui s'aime, qui vit bien, qui est heureux. Et puis, un jour, cet homme débarque pour acheter leur cave et il s'y installe. Et là, en fait, on découvre un personnage féminin qui va commencer... Enfin, je le raconte un peu à l'envers.
Non, mais... au contraire, je vous ai posé la question sur votre personnage, vous répondez très bien, au contraire.
Donc, il va commencer à se poser des questions sur cet homme qui achète cette cave, mais qui décide de s'y installer et qui tient des propos négationnistes, antisémites, petit à petit, qui va s'immiscer dans cet immeuble. Et à l'instar de son mari, qui va vouloir absolument pas entendre parler d'antisémitisme, de négationnisme, qui ne veut pas parler de ses origines juives, elle va commencer à fouiller, va commencer à chercher et elle va commencer à vouloir comprendre l'histoire de son mari, qu'elle ne connaît pas très bien, à vouloir attaquer cet homme, à être extrêmement énervée, virulente. Donc c'est une femme qui est plutôt dans l'action, contrairement à son mari qui est plutôt dans le déni.
Son mari, c'est Jérémy Régnier. L'homme de la cave qui donne le titre à ce film, c'est François Cluzet. Mmh. Vous êtes Bérénice Bejo. Bonne annonce.
Pourquoi vous la vendez? C'est toujours utile, une cave.
On avait dit 9000, hein. Je vous règle tout en une fois.
Vous savez le monsieur qui a acheté la cave? Eh bien, cette nuit, il a dormi en bas. Tous les jours, il vient dans les toilettes, moi je lui dis rien. Et d'un coup, il hurle, il me traite de sale bougnoule.
Maître, j'annule la vente de cette cave.
Vous allez nous rendre les clés.
Ah, non, la cave, elle est à moi. Vous avez encaissé le chèque. Je rentre chez moi, puis vous n'y pouvez rien.
Ce type est un négationniste qui nie les camps de la mort nazie.
Tu m'as jamais dit qu'on habitait l'appartement de ton oncle déporté.
Tu dis rien, tu demandes de l'aide à personne. On est frères, putain. Je sais, j'aurais dû t'en parler.
Ce Fonzik, c'est un pervers. Il va établir son emprise.
Moi, je me contente pas de rabâcher la vérité officielle. Moi, je suis un chercheur.
Chercheur mon cul, ouais.
Il y a une double dimension dans ce film et il y a une réflexion sur l'antisémitisme, vous l'avez dit. Et puis il y a aussi votre couple qui menace d'exploser ou d'imploser à cause de cette tension. Comment vous avez abordé le personnage d'Hélène? En fait, je pose la question en connaissant un peu la réponse. Mmh. Parce que je sais que vous avez demandé à Philippe Leguet, le réalisateur, qu'Hélène ait davantage d'épaisseur.
En réalité, oui. C'est-à-dire que c'est encore un personnage qui est féminin, qui est... le rôle principal, c'est Jérémy Régnier, c'est François Cluzet. Et moi, je joue la femme du rôle principal. Ça a l'air bête de le dire. Mais du coup, j'en ai parlé avec Philippe. Je lui ai dit, il ne faudrait pas que ce soit un énième rôle de femme 2. Et donc, je lui ai dit, Philippe était tout à fait d'accord. Hein, accentuons son côté un peu border, qui s'inquiète, qui a des moments de stress, de folie, d'angoisse. Et j'ai vraiment voulu travailler sur la montée angoissante que ressent ce personnage par rapport à cet homme. Et surtout, c'est une femme qui s'inquiète pour sa fille aussi. Vous savez, on a un enfant de 16 ans qui se questionne, qui est en plein doute, qui est en révolte aussi contre ses parents. C'est des moments fragiles pour les enfants. Et j'aime aussi le rapport des parents avec cette jeune fille.
On va entendre un extrait. Simon, donc Jérémy Régnier, arrive en trombe dans le cabinet du notaire. Il vient de s'apercevoir que Fonzik a menti sur sa personne, alors que justement le couple s'apprêtait à signer la vente de la dite cave.
C'est quoi? C'est l'acte? T'as signé?
Qu'est-ce qui te prend? Simon, qu'est-ce qui se passe?
J'ai appelé les décès à la mairie de Chaville. Vous nous avez menti, Fonzik. Votre mère n'est pas morte il y a 2 mois, elle est morte il y a 10 ans. Vous venez d'être expulsé de l'appartement après 7 ans d'impayés.
Et en quoi ça vous regarde?
Et votre radiation de l'éducation nationale, ça me regarde pas non plus? Je reviens du lycée d'Hydro à Chaville. Le proviseur m'a tout raconté. Ce monsieur a été radié suite à des propos négationnistes tenus en classe.
Mais enfin, c'est quoi cette histoire?
Monsieur Fonzik se dit être un esprit libre, hein. Il invite ses élèves à se demander si Napoléon est vraiment mort à Sainte-Hélène, si Jeanne d'Arc est morte sur un bûcher.
Je pose des questions. Est-ce qu'on peut poser des questions?
Des questions sur l'existence des chambres à gaz? Des parents d'élèves se sont plaints, c'est remonté jusqu'au rectorat. Fonzik a eu un blâme, il a recommencé l'année suivante. Le couperet est tombé, l'académie l'a révoqué, apologie du crime contre l'humanité. Non mais, vous dénoncez les soi-disant preuves des soi-disant chambres à gaz, non mais c'est...
Enfin, on a bien le droit de discuter, non?
Ah non mais moi, c'est très simple, je ne discute pas avec des gens comme vous. Maître, j'annule la vente de cette cave.
L'angoisse est palpable, même pour le spectateur. Là, je parle de moi. Et on se dit, cette histoire est folle. Mmh. Et j'ai découvert ensuite que tout est parti d'une histoire vraie. C'est réellement arrivé à des amis du réalisateur Philippe Leguet.
Oui, c'est parti d'une histoire vraie qui est arrivée il y a une dizaine d'années. Philippe a laissé tomber le projet. Puis il est reparti avec ce projet il y a deux, trois ans. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le personnage qui est joué par François Cluzet, donc il y a un négationniste antisémite, il est là, il dit « mais moi je pose des questions ». Donc ce qui est angoissant, ce qui est énervant pour nous, le couple, c'est que le gars se pose en victime. Et c'est très énervant parce qu'on ne sait plus comment l'attaquer. Il dit « je pose des questions, ouais. Je ne fais rien de mal ».
Avec des arguments qui font mouche, il retourne votre fille de 16 ans, il dit « il y a eu combien de morts par exemple ?»
Il y a 11 millions d'Indiens qui sont morts.
Pendant la conquête américaine.
Voilà, est-ce qu'on en parle de ça? Donc du coup, c'est très déstabilisant parce que c'est des gens qui se posent en victime et alors que c'est nous les victimes qui retournent la situation. Et quand évidemment il parle à notre jeune fille de 16 ans, Elle se dit, bah oui, c'est vrai, il pose des questions.
Et ce qui est complètement dingue dans l'histoire vraie qui arrivait à des amis du réalisateur Philippe Leguet, oui. Leur couple a explosé. Oui. Je ne dirai pas ce qu'il arrive de votre couple dans le film. Vous restez avec nous, Bérénice Béjot. Vous parliez de la fille de 16 ans, on va même remonter plus en arrière. C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Tout ce qui est arrivé à notre invité avant sa propre célébrité. On marque une pause. Culture Média continue avec Bérénice Béjot.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Je l'ai dit il y a moins d'une minute, mais je le redis, nous sommes en compagnie de Bérénice Béjot, la comédienne. On parle du film L'Homme de la Cave. Bérénice Béjot a mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait d'une célébrité avant sa célébrité. Donc, rebonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Bérénice Béjot.
Bonjour.
Vous êtes une comédienne accomplie, César de la meilleure actrice, prix d'interprétation féminine à Cannes, nommée aux Golden Globes et aux Oscars. Mais comment en êtes-vous arrivée là? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Bérénice Bejo, vous êtes née à Buenos Aires, en Argentine, un pays que vous quittez à l'âge de 3 ans avec votre famille pour fuir la dictature militaire. Vous arrivez en France, à Paris, sans parler le français. Vous vous adaptez vite à l'école, à votre maîtresse et à vos camarades, sauf que l'institutrice qui est votre point de repère quitte l'établissement et ça vous déstabilise, ça vous traumatise même.
C'est vrai ?
Bon, elle est partie en congé mat, j'ai pas apprécié.
Ah oui, non. Dis donc.
C'est, wow. C'est pas cool du tout. Ouais, bah, si du coup, je suis devenue mauvaise en orthographe.
Si c'était un homme qui avait dit ça, dis donc.
À la maison, dans votre enfance, il y a des rituels. D'abord, le film du samedi soir en famille. Votre père, le réalisateur argentin Miguel Bejo, vous fait découvrir des vieux films italiens et les grands classiques de l'âge d'or d'Hollywood. Et il vous fait aussi regarder des films d'horreur comme ceux d'Alfred Hitchcock.
Ouais, c'est pas des films d'horreur, mais ouais.
Vous aviez quel âge ?
Ouais, on a commencé très tôt, hein, vers 7-8 ans. La femme qui disparaît, c'est pas un film d'horreur,
non, ça va,
voir
ça
et
va.
Le revoir.
Oui, c'est une institutrice, elle disparaît.
Ouais, elle disparaît. Voilà, ouais, j'ai vraiment un problème avec les gens qui disparaissent.
Autre tradition familiale, les galetas de crema de votre père le dimanche. Et puis lorsque vous allez chez l'orthophoniste, enfant, votre père vous promet toujours une pâtisserie comme récompense après la séance. Un Paris-Brest, par exemple ?
Non, un millefeuille.
Ah, un millefeuille.
Avec du sucre glace dessus, dont je me remplissais le visage. Il me mettait sur ses épaules et on descendait toutes les marches de Montmartre. Il faisait tac-tac, 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 tac-tac. Et on arrivait chez l'orthophoniste.
C'est une belle anecdote. Ouais.
Bérénice Bejo, à l'âge de 5 ans, vous déclarez que vous voulez devenir comédienne. C'est une vocation, c'est votre chemin. Votre père vous inscrit alors à des cours de théâtre, mais vous êtes très timide. Vous n'acceptez de monter sur scène pour jouer que si vous êtes certaine de tout maîtriser, uniquement si vous êtes sûre de vous.
Ça veut dire quoi, ça ?
Bah, il fallait que je cartonne, en fait. Donc, je montais vraiment rarement sur scène. Quand je montais sur scène, je défonçais tout. Puis, on me demandait de refaire, j'étais incapable de refaire.
À l'âge de 10 ans, vous passez votre premier casting. Votre père réalise une publicité, mais il ne veut pas dire que vous êtes sa fille. Vous passez donc l'audition incognito et vous êtes prise.
Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, c'est vrai.
Vous avez oublié, c'était quoi cette pub ?
Ouais, c'est pas une pub, c'est un jeu pour la Villette, là, le truc de l'industrie de la Villette. Là.
Ouais.
Et c'était des photos, c'était interactif, c'était avant Internet et on choisissait le personnage qu'on voulait et on lui faisait faire des aventures en fonction de... des choix et donc je faisais des, un roman photo quoi. Ouais,
la cité des sciences de la Villette. Sciences,
voilà.
Bérénice Bejo, en 1993, l'année de votre bac scientifique, option théâtre, que vous passez au lycée de Rambouillet, vous obtenez votre premier rôle dans le court-métrage Pain perdu. Puis vous vous inscrivez à la fac, mais vous n'y mettez pas trop les pieds. Vous apparaissez dans un épisode de la série Regards d'enfance de Serge Moati. Vous avez alors 19 ans, on écoute un extrait.
Pour atteindre de nouveaux sommets d'extase, préférez-vous petit A, vous immergez dans une baignoire remplie de crème anglaise.
Avec une paille alors.
Petit B, vous lui dites fais-moi mal Johnny, lui est trop vieux. Et petit C, qu'on vous suce le gros orteil. Ah,
ah oui, comment ça s'appelait ça ? Histoire d'homme.
La tête de Bérénice.
Bah, j'ai la voix de mon fils.
Ouais.
Ça me fait rire.
Vous avez oublié ce son ou vous en
souvenez ? Ah non, j'ai complètement oublié. C'est rigolo de s'entendre à 18 ans. Enfin, puis je revois la scène, je me fais sucer le gros orteil quand même par je sais plus qui.
Ouais.
Donc c'était quand même une chouette première expérience, quoi.
Suivront la série 1 et 1 font 6 sur une famille recomposée avec Pierre Arditi et des seconds rôles dans des téléfilms et des séries comme Julie Lescaut. Vous vous retrouvez ensuite en tête d'affiche dans la peau d'une adolescente entraînée avec sa sœur dans une errance nocturne dans les rues et le métro de Paris dans le film « Les sœurs d'Hamlet » d'Abdelkrim Balloul. 2 ans plus tard, le grand public vous découvre dans le film « Meilleur espoir féminin » de et avec Gérard Jugnot, où vous jouez le rôle de Laetitia, une fille de coiffeur qui réussit un casting en cachette de son père et qui lui vaut d'être nommée pour le César du meilleur espoir féminin. Le film porte bien son nom puisque vous serez vous-même nommée au César dans cette catégorie. La première nomination d'une longue série. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Merci.
Merci beaucoup, Lisa-Marie Marquez. C'est émouvant.
Des gros dossiers. Hein, on a sorti des gros dossiers, là.
Si vous revenez une prochaine fois, vous allez voir, là, on va sortir des vrais doses. Et après, vous serez fâchés. Non,
vous
n'avez
pas parlé
ici
de la Renault, de la Citroën verte eau, avec laquelle mon père nous emmenait au collège avec ma sœur, avec les deux chiens qui sortaient la tête par la fenêtre.
Racontez.
Et bah, c'était ça. On arrivait, la voiture elle était horrible. Ils s'arrêtaient devant le collège. Il y avait les deux chiens qui sortaient leur tête par la fenêtre. Et nous, on sortait et c'était la honte, quoi. Aujourd'hui, je trouve ça tellement cool.
Mais
c'était vraiment. On se tapait l'affiche, quoi. C'est
la Renault verte pomme qui monte quand on l'allume et qui descend quand on l'éteint. Vous savez, ah, les voitures.
Je crois que c'est des Citroën, moi.
Citroën,
ça.
Pardon, pas Renault, d'accord. Citroën. C'était une horreur. Et le chien. Et qui aboyait et tout. C'était horrible.
C'est Béris vraiment... Béjot fait tout. Elle fait la voiture et le chien. Vous pouvez la voir sur Europe1.fr. Merci beaucoup, Lisa Marie. Dans un instant, notre première indispensable avec Stéphanie Loire qui nous présente un livre qui fait honneur à la culture du street art.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Bérénice Béjot, on parle du film L'homme de la cave, film de Philippe Le Guay qui sort aujourd'hui avec Jérémy Régnier et L'homme de la cave incarné par François Cluzet. Pour Jérémy Régnier qui incarne un juif, c'est très douloureux de parler de l'occupation. Il y a une loi du silence dans sa famille. C'est pour ça que parfois, il y a des tensions entre vous. Et à votre manière, vous comprenez cette douleur. Lisa Marie Marquez parlait de votre papa et de vous-même qui est arrivé d'Argentine à l'âge de 3 ans. Vos parents ont connu là-bas la dictature. Mm-hmm. C'est pour ça qu'ils sont venus en France. Votre père, pardon de raconter ça, mais il s'est même fait arrêter avec des simulacres d'exécution. Mm-hmm. Comme dans le film, il vous a tout raconté. Ou est-ce qu'il y a des sujets tabous?
Non,
trop,
puis
trop délicat, trop douloureux.
Mon père, quand il raconte ses anecdotes, il la raconte en rigolant. C'est très bizarre ce que je dis, mais c'est comme s'il dédramatisait tout et qu'il voulait dire bon, c'était pas si, enfin ça va. Mais en fait, quand on y pense, il leur est arrivé des choses. Enfin, je connais quelques anecdotes assez assez dramatiques, assez dures. Ils ont quand même quitté un pays. Ma mère faisait partie d'un groupe politique où ils se sont tous fait assassiner les uns après les autres. Mais ils sont plus comme Jérémy. Ils en parlent pas beaucoup. Ma mère, elle peut pas vraiment en parler. C'est trop compliqué.
Et vous-même, c'est ce qui m'a encore davantage intéressé, vous dites que vous ne pourriez pas tourner dans certains films à cause de traumatismes liés à cette histoire, cet atavisme familial.
Je me suis rendu compte qu'à force de recevoir des projets argentins sur la dictature et à force de les refuser, c'est qu'il devait y avoir quelque chose. Donc oui, j'ai réalisé que pour le moment, je n'avais pas envie de rentrer là-dedans. Quoi. Pas, voilà.
Tout à fait autre chose.
C'est pas un déni, hein, mais c'est peut-être un respect de ce silence que mes parents... nous impose d'une certaine manière et du coup j'ai pas envie d'aller fouiller plus que ce que eux nous ont donné, ce qui nous empêche pas de nous connaître bien et de mais bon, il y a des choses, peut-être on connaît pas tous nos parents et peut-être parfois c'est pas plus mal, quoi.
Tout à fait autre chose. Ça va pas être facile d'enchaîner, mais je sais que ça va être un peu facile.
Ouais,
vous connaissez le street art?
Oui.
Vous avez vu cet enchaînement?
Attendez, les gens s'expriment sur le street art. Il y a de la politique, il y a du social. Ça,
c'est vrai.
C'est une belle transition.
Voilà. Et vous aimez ça?
Oui, j'aime ça et j'ai ma petite fille qui adore ça. Et donc, je l'avais emmenée à un musée, le musée En Herbe, où il y avait toute une exposition sur le street art. Du coup, on avait acheté un bouquin et on avait parcouru Paris, surtout Belleville et tout. Encore ce week-end à vélo, on regardait toutes les fresques et elle adore ça, quoi.
Stéphanie Loire, bonjour.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Et c'est vrai que ce qui est bien avec le street art, c'est que la rue devient une galerie et c'est ce dont on va parler.
Exactement, vous nous parlez d'un format différent. C'est pas un 45 tours, c'est pas un 33 tours, c'est pas un CD, c'est pas un album. 28,5 cm, c'est un grand livre.
C'est le format de ce livre qui est posé là, qui est un très bel objet. Un livre qui contient une histoire précieuse, celle d'un art qui fait tomber les frontières de l'art, le graffiti. Ce livre s'appelle « Sur nos murs, 40 ans de graffiti avec Agnès B ». Il est écrit par Karim Boukercha avec Gauthier Bischoff. C'est une fresque dans laquelle on croise les œuvres de Jean-Michel Basquiat, de Keith Haring, des témoignages des pionniers du graphe comme Futura, Mode 2, jusqu'aux stars du street art tels que Space Invader ou Obed Giant. On explore sur 240 pages, les évolutions de ce mouvement qui est né dans la rue, qui a réussi à s'imposer dans le monde de l'art et à résonner à l'échelle planétaire. La musique aussi aura sa place parce qu'elle a accompagné le graphe et les artistes dans leur créativité.
Et ça, c'est culte.
C'est complet. Ça, j'étais sûre que vous alliez aimer.
Bah, c'est même pas que j'aime, c'est emblématique.
Évidemment. Alors, on vient d'entendre un extrait de Metz.
C'était 20 ans avant la French Tech, avant la French Touch plutôt.
Metz pour le temps présent de Pierre Henry, c'est un compositeur français de musique expérimentale. Et c'est un choix des frères Ripoulin, puisque l'auteur du livre a demandé des choix de morceaux au graffeur pour cette chronique spécialement. Les frères Ripoulin, ce sont des affichistes dont l'histoire est retracée dans ce livre, entre autres.
Comment est né ce livre justement?
Son idée l'a germée suite à la découverte de vieilles boîtes poussiéreuses remplies d'archives qui contiennent toute l'histoire de l'art urbain de 1984 à nos jours. C'est un trésor qui a été déniché à l'occasion de travaux effectuée dans les sous-sols du Boyau, comme l'appelle Agnès B. C'est sa galerie du jour à Paris. Cette galerie, c'est le premier lieu d'expo du graffiti en France. Vous pourriez y emmener votre fille, d'ailleurs, Bérénice, où Agnès B. invite des artistes qu'elle repère sur les murs de Paris ou de New York à exposer sur ses murs depuis bientôt 40 ans. C'est donc aussi un livre qui raconte le chemin qui a mené le monde du graffiti jusqu'à la toile. Parmi les témoignages recueillis par l'auteur, celui des frères Ripoulin.
Ripoulin comme Ripou, et c'est un clin d'œil évidemment à la peinture Ripoulin. Les trois peintres qui se peignent sur le dos.
Exactement, un petit clin d'œil provoque à cette peinture que tout le monde utilisait, alors que ce collectif d'artistes, lui, il utilise la peinture pour recouvrir des affiches publicitaires en 4x3.
Bah, vous avez l'appli Space Invaders.
Ouais.
Bah, moi, je ne l'ai pas, mais oui, je suis très proche de gens qui l'ont. Et, ouais. Ça fait de la ville un terrain de jeu.
Évidemment.
Alors, Purple Rain de Prince, c'est un morceau qui a bercé la créativité de ses affichistes. Un collectif actif entre 1984 toujours et 1988 qui fait de la rue une galerie parmi leurs faits d'armes. Une expo sauvage à la station de métro Duplex avec Keith Haring en 1984. Oui. C'est un livre qui est truffé d'anecdotes savoureuses. Alors, je vais vous en raconter une. Un jour, alors que les frères Ripoulin ont investi des panneaux publicitaires sur l'avenue de l'Opéra, celui qui est devenu plus ou moins leur agent à l'époque, qui s'appelle Jean-Marc Patras, que vous devez peut-être connaître.
Moi, je l'ai connu. Je l'ai connu pour deux. Voilà. Patras, je l'ai connu.
Pour d'autres raisons.
Quand il naviguait dans la galaxie actuelle, et moi je travaillais à Actuelle et Radio Nova, voilà comment je le connais.
Et ben ensuite, il avait d'ailleurs amené les frères Ripoulin chez Actuelle. Donc il était à plus ou moins leur agent. Il découvre des vrais couleurs d'affiches qui sont en train de décoller, mais vraiment tout délicatement, les œuvres des frères Ripoulin sur les 4x3. Au lieu de les arracher pour les jeter et recoller des vraies affiches publicitaires, il demande pourquoi. On lui répond, des mecs nous les commandent. Il enquête et il découvre que le commanditaire, c'est en fait Jean-Charles de Castelbajac qui les collectionne.
Ah, non. Et alors, c'est pas facile à faire en radio. Décrivez-les. À quoi ressemblent leurs œuvres, Stéphanie?
Bah, en fait, je vais pas vraiment le faire. Je vais vous inviter à consulter ce livre. En revanche, je vais citer Stéphane Troicarré, qui fait partie de ce collectif Les Frères Ripoulin. C'est l'un des membres qui dit « C'était du rock en images ». Du rock en images, ça veut dire que c'est coloré, c'est vif et c'est joyeux, même quand on évoque des choses sombres. C'est ce que ça m'évoque, à moi en tout cas. Dans ce livre, on retrouve aussi, entre autres, un des pionniers du graff new-yorkais, Futura 2000, figure emblématique du passage de la rue aux galeries, premier graffeur des années 70 à avoir eu l'audace de mêler le graffiti et l'expressionnisme abstrait. Il a accompagné le groupe de punk Les Clash dans leur tournée en Europe, perché sur une échelle, en train de peindre des graffitis sur le fond de la scène. Ici, on va l'entendre rapper sur scène au Bataclan. C'était en 1982 avec Mick Jones des Clash.
C'est daté le son, bien sûr. Ouais. Ça me fait sourire. Et puis Futura, moi je le connaissais, il venait parfois Actuel et il taguait sur les murs de Radio Nova ou dans l'escalier, bien sûr.
Génial.
Et après, il y avait des cons qui venaient et qui recouvraient tout avec un truc tout pourri. On disait, putain, t'as effacé le Futura, idiot.
Ça va pas, les gars.
C'était peut-être pas con, mais en tout cas, ils étaient ignorants.
Aujourd'hui, ça se fait plus. Aujourd'hui, on sait la valeur que ça a. Hein.
Exactement.
Dans les pages de ce livre, le témoignage de Mod Too, un virtuose du graffiti qui s'est fait remarquer par ses lettrages et ses personnages peints à la bombe aérosol sur les murs de la capitale dès le milieu des années 80. Il a notamment organisé l'expo Vodou Lounge pour accompagner la sortie du 21e album des Rolling Stones en 1995, mandaté par Emmanuel de Burtel, patron de Virgin en 1995, que vous devez aussi connaître. Philippe, vous êtes la mémoire des médias.
Bah, oui. Évidemment, évidemment. Ça, c'est les Stones.
Ouais, en live.
Ouais. Le prix du livre ?
49 euros.
Ça va, ça va.
C'est... La maison d'édition, c'est textuel.
Voilà. Et j'ai appris, vous avez noté quelque chose sur votre main ?
Ouais,
c'était
juste
les références.
Le collectif des frères
Ripoulin. Ouais, voilà. Formidable. Bérénice Béjot note les indispensables sur sa main. Vous savez que si on a des feuilles, on peut vous les prêter. Alors, juste, dernière info, c'est que j'ai appris, Stéphanie, en préparant cette émission, vous célébrez aujourd'hui votre anniversaire. Sachez que vous êtes absolument resplendissante et que vous ne faites absolument pas vos 30 ans.
Je suis très surprise que vous ayez pensé.
Ouais. C'est elle qui m'a écrit ça.
C'est moi qui ai écrit ça.
Mais ouais.
Alors, oui, bah, écoutez, on est là pour se servir soi-même parfois.
Mais
hein,
tellement,
voilà.
Charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci beaucoup Stéphanie Loire. Ça vous a plu, ce livre c'est pour vous. Dans un instant, notre deuxième indispensable est Guillaume Bénèche, deux romans jeunesse. C'est tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Bérénice Béjot, l'homme de la cave, ça sort aujourd'hui. Vous avez une fille dans L'Homme de la Cave qui a 16 ans, c'est Justine. Je vais la citer parce qu'elle est incarnée par Victoria Hébert. Je vais la citer parce qu'elle est absolument formidable, comme tous les comédiens de films vraiment que je recommande. Mais dans la vraie vie, vous avez deux enfants.
Oui.
Ils ont quel âge ?
10 ans et 13 ans.
Ça ne peut pas mieux tomber. Guillaume Benesch, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous allez nous parler de deux romans jeunesse ce matin, Guillaume.
Oui, et je vais vous parler de deux romans pour ados qui ont la particularité, attention, d'ouvrir le champ des possibles. Alors des romans qui parlent d'ambition, sans jamais la nommer, et de deux façons absolument différentes. Le premier bouquin est une traduction américaine, tout juste parue chez Pocket Jeunesse, un roman de Sarah Watson, qui a notamment écrit la série, je ne sais pas si vous l'avez vu, The Bold Type sur Amazon Prime. Ce roman, ça s'appelle Un fabuleux destin. Et c'est l'histoire de quatre copines qui vivent à Cleveland, aux États-Unis et qui se sont connues quand elles avaient 5 ans. Elles sont maintenant en terminale et leur quatuor est absolument inséparable. Il y a Clark, Joséphine, une fille smart engagée dans des assos caritatives, Ava, fille d'avocate d'origine hispanique, qui est l'artiste de la bande. Puis il y a Jordan qui veut devenir journaliste et Martha, qui vient d'une famille très pauvre.
Et l'intrigue tourne autour de leur amitié.
Alors oui, mais pas seulement, puisque l'une d'elles va devenir présidente des États-Unis d'Amérique le 20 janvier 2049. Et on le sait dès le début du livre, puisqu'il commence par le serment de la future présidente. Mais je vous le donne en mille, on ne sait pas laquelle de ces quatre copines sera l'heureuse élue.
C'est génial comme idée.
C'est tout l'objet du livre qui est basé sur un premier engagement politique qui a lieu pendant leur année de terminale. L'établissement va être fermé par la mairie et elles vont essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Et devinez quoi, ça va influencer absolument toute l'intrigue et donner une réponse à cette question qui turlupine dès les premières pages. Évidemment, laquelle de ses filles sera la présidente. Entre celle qui veut devenir journaliste, où naturellement on se dit le mélange des genres est peut-être un petit peu difficile, entre l'artiste, famille fortunée, mais en même temps elle est hispanique, ce qui serait une première formidable, en face la jeune fille pauvre qui pourrait vivre un American Dream, et puis la dernière qui est noire de peau, vraie résonance avec Kamala Harris, enfin bref, un mystère total. Et je vous avoue que c'est formidablement bien écrit. En tout cas, la traduction de Mode de survivre est honorable. Ça se lit comme une vieille série. On comprend le vrai métier de l'auteur. Et puis l'ambition qui se dégage de ces quatre jeunes femmes est particulièrement inspirante. Je vous avoue que ça m'a un peu donné envie de devenir président de la République.
Philippe. Non, pour de vrai.
Ah ouais,
oui, pour de blague, vrai. Blague à part. On sait à la fin laquelle des quatre ou pas ?
C'est possible.
Ah, même ça, il ne le dit pas. Et vous vouliez nous parler aussi d'un deuxième roman ?
Oui, celui-ci, il est français. Il a été écrit par Pauline Pucciano. Ça s'appelle Paradict. Ça vient de sortir chez Gallimard Jeunesse. Le sous-titre du roman dit déjà beaucoup sur l'ambition qu'il défend. Attention, je cite : jusqu'où serons-nous prêts à aller pour sauver l'humanité ?
C'est pas un petit peu vu et revu, ça ?
Alors, sur ces mots, je vous l'accorde. Sur la suite, ça devient tout de suite un peu plus charmant. Le roman se déroule en 2071.
Ah, là encore de l'anticipation.
Absolument. Et on suit dans ce roman un flic, Alvar Costa, qui mène une enquête sur un meurtre à deux doigts de mettre la lumière sur un projet politique secret. Et Alvar va devoir faire affaire avec son frère et sa sœur qui travaillent justement pour une agence gouvernementale. Grosso modo, tout les oppose. Mais à la limite, ça pourrait être un polar classique jusque-là, sauf que ce roman n'est pas seulement un thriller, c'est aussi une dystopie et un roman de science-fiction. Imaginez un monde où aucun État ne s'est vraiment préoccupé du réchauffement climatique, où la technologie est devenue pour eux un moyen continu de priver les libertés de chacun, où la censure est de rigueur, où le racisme est à empirer. Enfin bref, un monde qu'on n'a pas du tout envie de voir dans 50 ans.
Et donc le flic va tenter de sauver ce monde ?
Eh bah, ben pas vraiment. Bon, c'est ce qui fait d'ailleurs le charme de ce livre. On a une enquête policière dans un contexte absolument alarmant qui pourrait être celui de notre planète un jour. Beaucoup de sujets de société sont mis sur la table, mais d'une façon qui n'est pas moralisatrice, ça change et au contraire, la romancière expose un point de vue que j'ai trouvé plutôt ambitieux par la volonté de susciter une ambition chez la lectrice ou le lecteur, celui d'éviter ce futur-là, par le respect, par la démocratie, par une prise de conscience écologique. Bref, c'est un roman qui surprend, dont le dénouement est étonnant, ce qui est toujours très agréable, surtout sur des romans jeunesse. Et tout ceci écrit avec une plume assez formidable dans un mélange complet de genres qui rassemble tout type de lecteurs. Bref, sincèrement, j'ai adoré.
Alors, les titres,
c'est Paradict de Pauline Pucciano qui est chez Gallimard Jeunesse, ça vient tout juste de sortir, et Un fabuleux destin de Sarah Watson chez Pocket Jeunesse, les deux sont en librairie.
Merci beaucoup Guillaume Benesch. Bérénice Bejo, lequel des deux ? Aucun, les deux ?
Les deux, je pense.
Puis à lire à partir de 10-11 ans,
ouais,
ça
les
se lit
deux,
facilement.
Les deux. Moi, j'aime bien le premier là, parce que bon, quatre femmes, je trouve ça intéressant. Et puis l'autre pour mon fils, pas mal, ouais. Mes enfants, ils lisent plutôt bien, ils adorent ça.
C'est vrai ?
Ouais, donc...
Attendez, il y a plein de parents qui nous écoutent. Oui. Comment vous avez fait pour que vos enfants, et c'est un compliment, aiment la lecture ?
Franchement, c'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire que là, mon fils, il aime les mangas depuis un an. Mmh. Donc, il a arrêté un peu de lire des romans. Donc, je lui dis, ok, tu lis des mangas, mais tu lis au moins deux pages d'un roman.
Mais ils ne passent pas leur temps devant les écrans, la télévision, l'ordi
ou
les
portables. On n'a pas de télé, les ordis, c'est des codes, donc ils ne peuvent pas y avoir accès. Donc ils feintent,
bah,
ils
la
trouvent.
La recette, la voici. Vous n'avez pas de télévision chez vous, non. Les ordis sont...
Ouais, il y a un code que je change tout le temps. Donc l'autre fois, c'était Vive la vie, ils l'ont trouvé. Là, franchement, j'ai un code sur mon téléphone avant qu'ils le trouvent. Non, ouais, il faut changer les codes. Et puis bon, il ne faut pas lâcher. Bah, on est crevés, hein, on a les cheveux blancs, on a des cernes. Franchement, élever des enfants aujourd'hui, c'est vraiment une galère, quoi. Ouais. Mais finalement, une fois qu'ils commencent, si tu leur dis juste deux... Allez, tu lis pas un chapitre, tu lis deux pages. Mais les deux pages, elles vont t'emmener. Si le livre, il est bien écrit, ils vont en lire cinq. Donc du coup, je les oblige. Et à force d'obligation, bah, ils finissent par aimer ça.
Merci pour ce conseil. Vous restez avec nous, Bérénice Béjot. Il y a des parents qui vont vous écrire pour vous féliciter. Ça s'appelle L'Homme de la Cave. C'est suite et fin de Culture Média. À tout de suite, va arriver Marc-Antoine Lebray.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Bérénice Béjot, c'est la dernière ligne droite de Culture Média. On parle de L'Homme de la Cave. Vous avez fait une fête hier, Bérénice?
Bah, c'est l'avant-première, donc on est allé présenter le film. On était très heureux parce que la salle était remplie. Les temps sont durs, hein, faut quand même pas se... et les retours ont été super. Donc on n'a pas fait une fête, mais on a dîné. Mais c'est un film, en fait, qui, comme c'est un thriller, il y a quand même, c'est du cinéma, quoi. C'est un sujet qui est dur, on est dans du cinéma, c'est bien joué. François Cluzet est extrêmement... il est génial dans le film parce qu'on a beaucoup d'empathie.
C'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est un salopard et on a envie d'être son pote.
Exactement. Mais en même temps, on lui donne pas raison. Mais donc, du coup, écoutez, ça s'est bien passé. La promotion
donc
s'est bien passée.
C'est pas du tout à ça que je pensais.
Ah, pardon, une fois pourquoi ?
Bah, c'est qu'hier, c'était les 10 ans de Die Artist. Vous le saviez pas ?
Non. En fait, je le savais parce que ma fille, elle a 10 ans et en fait, j'étais enceinte au moment de la sortie du film. Voilà. Donc, je sais à chaque fois qu'elle a un anniversaire, mais j'ai pas fait. Non. Oui, c'était le 12 octobre. Elle devait
naître. Oui,
elle devait naître.
On vient de la réveiller. Ça y est.
J'étais enceinte. Ma fille devait naître le 12 octobre pour la sortie du film le même jour. Ouais. Et je n'arrêtais pas de caresser mon ventre en disant ma chérie, il faut absolument que tu arrives avant. Ton jour doit être ton jour et pas celui des artistes. Elle est arrivée 3 semaines avant. Effectivement, j'y ai pensé hier, c'est vrai.
Z comme Z, ça va se faire, c'est sorti, c'est filmé.
Ah non, le film est fini, c'est...
Je vais dire ce que c'est. Z comme Z, film de Michel Hazanavicius, donc le papa de votre fille. Je sais juste que c'est un film de zombies.
Non,
non,
c'est pas un
même
film
pas.
De zombies.
Même
c'est
pas.
C'est une énorme, une grosse, grosse comédie de Michel, mais vraiment le retour en force des comédies de Michel. C'est l'histoire d'un tournage qui se passe mal, qui merde, et on raconte un tournage. Et c'est accessoirement un tournage de zombies. Ouais. Romain Duris joue le réalisateur, moi je joue une comédienne du film. Et tout se passe mal, et ça raconte ce que c'est qu'un tournage.
Ça sort quand ?
On ne sait pas,
vous
mais
le savez pas.
Il est fini là. Il est fini,
c'est tourné, monté. Ouais. Et encore, dernière petite info, autre film, une comédie que vous avez tournée à La Réunion,
oui.
Avec Manu Payette, qui est le régional de l'étape, Élodie Boucher, Nicolas Duvauchel, ça raconte quoi ?
C'est une bande de potes, c'est une histoire vraie, ça part d'une histoire vraie qui se retrouve à Hawaï, ça, je crois que c'est en 2015 ou 2016. Une alerte à la bombe atomique est annoncée, tout le monde doit se cacher. Cette bande de potes ne trouve pas de cachette et ils ont une demi-heure à vivre. Et dans cette demi-heure, ils se disent à quel point ils s'aiment. Et puis à un moment donné, on est tellement stressé, angoissé qu'on se dit aussi à quel point toi tu m'emmerdes et toi j'aime pas ça. Et on se dit nos quatre vérités.
On sort tous les dossiers.
Et voilà, et ça c'est les 5 premières minutes du film. Et au bout de 5 minutes, il y en a un qui arrive et fait mais les gars, c'est pas vrai en fait. Et là, c'est 1h30. Genre, qu'est-ce que tu fais entre potes quand tu t'es dit tes quatre vérités?
Et il faut tenir toutes les vacances avec
voilà.
Ça.
Voilà, et c'est pas que des quatre vérités sur des problèmes d'infidélité ou quoi. C'est j'aime pas tes gosses, j'aime pas ta manière de te comporter, j'aime pas ce que tu dis, j'aime pas ce que tu fais, t'étais mon ex. Donc ça part dans tous les sens et tu dis tout ce que t'as envie de dire à tes potes, quoi.
Hâte de voir également.
Mélissa Drijard en est la réalisatrice.
10h54, tout pile, c'est l'heure des stories de Lebray. Chaque jour, des stars viennent spécialement pour notre invité. Aujourd'hui, François Cluzet, l'un des comédiens justement de L'Homme de la Cave. Salut François, est là pour vous, Bérénice Béjot.
Non, juste pour situer un peu à vos auditeurs, deux infos. D'abord, dans le film L'Homme de la Cave, eh ben, L'Homme de la Cave, c'est moi. Hein. Et ensuite, c'est pas une suite de Intouchable, parce que j'aurais jamais pu descendre à la cave avec mon fauteuil roulant. Putain. Bon, en tout cas, dans ce rôle, ça me change de Intouchable. Ouais, mon personnage, il est raciste, antisémite et négationniste. Je suis passé de tétraplégique à tétracon, putain.
Stéphane Plaza est passé également ce matin pour vous donner des conseils immobiliers.
Eh, bonjour tout le monde. Alors moi, je voulais juste dire à Bérénice que la prochaine fois qu'elle veut vendre un bien, elle m'appelle. Hein. Sinon, vous vous retrouvez à habiter à côté d'un type antisémite et négationniste. Ça fait froid dans le dos. Donc si vous voulez déménager, vous me le dites. Il paraît que le voisin de Dieudonné vend sa maison.
Le député des Pyrénées, Jean Lassalle, voulait absolument vous dire un mot, Bérénice.
Oui, française, français, philippin et philippine. Bérénice et Bérénice. Basque, bonjour. C'est ce matin, voyez-vous, c'est parce que j'ai entendu que Madame Béjot vendait une cave. Et voilà, ce serait mentir que de dire qu'une cave ne m'intéresse pas. Hein? Ce n'est pas Mélanie Gomez et Julia Vignali qui vont dire le contraire. Vous savez, quand on fait des enfants, on cherche des chambres supplémentaires. Et bien quand on fait des apéros, c'est presque pareil. On cherche des caves supplémentaires. Alors pour ce qui est des dimensions de la cave, Madame Béjot, pardon, petit rototo du matin, excusez-moi. Oh, je ne suis pas très exigeant. Un petit espace entre 7 et 8 000 mètres carrés me serait largement suffisant pour stocker mes quelques bouteilles. Vive la République et vive les caves.
Calmez-vous, monsieur le député. Puis quelqu'un que vous connaissez très bien, Bérénice Béjot, est venu ce matin pour vous. Je veux bien sûr parler de Jean Dujardin. Vous parlez pas, Jean Dujardin.
Oh, pardon. Ah, oui. Non, c'est juste qu'en voyant Bérénice, je me suis cru dans The Artist. C'est incroyable comme certaines habitudes restent, Philippe. Dès que je regarde Bérénice, automatiquement, je ferme ma...
Allez-y, détendez-vous.
Désolé, c'est comme une sorte de réflexe, Philippe. C'est gênant. On fait un film muet et hop, dès que je vois Bérénice, j'ai envie de me taire. C'est là que je me dis, heureusement, qu'on a fait un film muet et pas un film X. Ça aurait été encore plus gênant.
Non. Merci.
Bonne journée.
Et je vous dis à demain. Merci, Bérénice Béjot.
Merci à
vous. Merci d'avoir été avec nous et je suis ravi qu'on vous ait
fait tous ces cadeaux.
Merci, c'est formidable. Le film s'appelle L'homme de la cave. Je ne me trompe pas, j'avais plus mes notes et je ne me suis pas trompé. Et ça sort aujourd'hui sur les écrans. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec la réalisatrice et comédienne Frankie Valak pour son film Trop d'amour et puis l'humoriste Verino pour son spectacle Focus. Je crois que vous le connaissez. Et puis juste après le flash, elles sont déjà dans ce studio. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Bien fait pour vous. Le programme du jour, les filles.
Aujourd'hui, on va commencer par un premier sujet qui va intéresser tous les parents qui nous écoutent. On va se poser cette question, comment ne plus subir les crises de nos enfants? Vous savez, ces moments gênants au supermarché, quand ils se roulent par terre, quand ils ne veulent pas prendre le bain, qu'ils ne veulent pas manger. Enfin, je suis sûre que ça vous parle. Eh bien, on va...
Ça m'a parlé. Voilà. Maintenant, ces filles, ils se roulent
par
terre.
Non, moi, je n'ai pas ce genre de problème.
Non.
Bah,
non,
bah, alors,
la mère parfaite est avec nous.
Et puis,
il faut boire une bouteille de vin pour l'oublier.
Pas du tout.
Et puis, on va parler aussi des gens qui ont des problèmes de vue. Je ne sais pas si c'est votre cas, Philippe. Vous êtes miro ou pas?
J'ai des lentilles.
Vous avez des lentilles,
mais
d'accord.
Sans les lentilles, je vois rien.
Eh bien, sachez que vous pouvez vous faire opérer, évidemment, de la myopie. On va en parler avec notre spécialiste.
Merci beaucoup. On vous écoute. Et à tous et toutes, je dis bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain. Salut.